Bonjour à tous, c'était prévu, c'était annoncé. Une journée de chaleur record dans le pays. Alors cette canicule, bien sûr, avec ses conséquences, va occuper l'essentiel de nos discussions. Avec nos envoyés spéciaux, avec nos invités, nous serons en direct de Charente, du Rhône, de Gironde, de l'Oise. Débat aussi sur la climatisation dont ne veut pas Jean-Luc Mélenchon. Je n'y mettrai pas mes petits-enfants ou mes arrière-petits-enfants, dit-il. En plus, ça abîme les sinus, ça abîme le nez. C'est vraiment devenu un débat national, la climatisation, là où d'autres pays se posent beaucoup moins de questions. On reparlera du drame sur les noyades, 40 en 5 jours. Beaucoup de jeunes, beaucoup d'imprudence aussi. Nous serons avec des responsables de la sécurité civile. Ça, c'est pour la partie canicule. Et puis, on n'oublie pas le signé-consigné tout à l'heure pour conclure ces deux heures d'information. Les enseignements politiques, après la mort de Liana, les députés examineront finalement à la rentrée prochaine la proposition dite de loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles. On rappellera ce que c'est. Mais est-ce qu'elle répond aux attentes finalement ? Débat avec le député du Lot, non inscrit entre Charles Consigny et Aurélien Pradier. La canicule s'étend, donc il suffit de regarder le nombre de départements qui sont en vigilance rouge, en orange, c'est ce qui est prévu, on va le voir, et tous nos envoyés spéciaux sont sur place pour vous faire vivre à des degrés, sans mauvais jeu de mots, divers, la manière dont ces départements, ces régions et les Français vivent cette vague de chaleur. 58 départements en vigilance rouge, 31 en orange, ça va obliger aussi les pouvoirs publics à anticiper l'arrivée de patients en souffrance dans les hôpitaux dans les prochains jours, à lancer des appels à la prudence, je vous le disais aussi avec les noyades, mais première illustration concrète, on va aller dans la ville la plus chaude de France où on a allègrement dépassé les 40 degrés, il s'agit de Cognac en Charente où nous retrouvons Marie Roux pour BFM TV.
Oui, exactement, Alain. Nous sommes place François 1er dans le Vieux Cognac. Et ici, il fait particulièrement chaud. Il fait actuellement 41 degrés et le ressenti est de 43 degrés. Alors, conséquence, eh bien, les rues commerçantes sont quasi désertes. Les terrasses de café, elles aussi, eh bien, sont plutôt vides par rapport à d'habitude. Et ici, il fait chaud. Ce n'est pas un hasard parce que tout est minéral. Le béton, le bitume, les bâtiments. Ce qui fait, eh bien, que c'est qu'on emmagasine la chaleur avant de la redistribuer comme un véritable radiateur. Et il y a ceux pour qui c'est encore pire. Et dans cette boulangerie, par exemple, il n'y a pas de climatisation. Alors forcément, eh bien, les journées sont longues et étouffantes. Brian, racontez-nous comment ça se passe en ce moment.
Assez compliqué. Comme vous pouvez constater, sur ce thermomètre, on dépasse les 40 degrés. N'ayant pas de clim constamment ouvert, chaleur constante, four allumé minimum 215 degrés. Les seuls outils que nous avons, ce sont des éventails. Ventilateur peu conseillé parce que peu brasser la poussière. Donc du coup, pas très pratique pour l'alimentation. On s'hydrate beaucoup par les conseils de nos supérieurs. On a les boissons, on peut faire des tours dans les chambres froides histoire de se rafraîchir un minimum et pause régulièrement en cas de besoin. Mais après, malheureusement, on ne peut pas faire beaucoup plus. Et d'ailleurs, on a eu un message là récemment de notre supérieur qu'on va devoir fermer plus tôt pour des raisons de canicule d'ailleurs.
Est-ce que c'est la première fois que vous avez aussi chaud à Cognac ?
Alors en tout cas, moi qui suis là depuis plusieurs années, oui. Cette période n'est pas forcément très, on va dire, aisée certes, mais là en ce moment c'est compliqué de ouf. Du coup, on a énormément de pertes parce que du coup on n'a pas de clients par rapport à la chaleur. Le matin éventuellement, mais du coup l'après-midi c'est mort. Donc oui, non, c'est assez compliqué.
On vous sent un peu désemparé. En tout cas, on va vous souhaiter bon courage pour le reste de la journée, car le pire est encore à venir. Cette nuit s'annonce particulièrement chaude. Le thermomètre ne devrait pas aller en dessous des 25 degrés. Nuit tropicale qui va donc être très compliquée pour les personnes les plus fragiles ou pour les personnes âgées.
Marie Roux avec Alain Branger à Cognac, donc en Charente. On va regarder avec vous, Anthony Ferry, justement, cette carte de vigilance telle qu'elle s'annonce. Et puis les températures qui ont été relevées aujourd'hui. On n'a pas à être surpris, hein. Tout ça s'est annoncé depuis des jours.
Alors tout ça est annoncé effectivement depuis des jours, mais enfin, on peut tout de même être surpris par les valeurs que l'on mesure, qui sont juste ahurissantes. Je pense que si on demandait à Météo France il y a 3 semaines, imaginez-vous 44 degrés au Cap Ferret ce 23 juin, personne aurait dit oui, bien sûr, ce sont des valeurs historiques, ahurissantes, on n'a même plus de superlatif. Regardez cette carte. On n'a jamais vu une telle carte, 58 départements en vigilance rouge. Il n'y a plus que 7 départements en vigilance jaune. C'est du jamais vu, tout simplement. Et nous avons des valeurs qui explosent tous les records. À 16h, donc c'est-à-dire il y a quasiment une heure maintenant, on avait déjà 258 records battus. On va en avoir sans doute plus de 350 encore. Vous découvrez les températures effectivement juste folles à droite. Et ça, ce sont les températures pour la journée. Mais dans quelques heures, vous avez vécu une nuit horrible si vous n'avez pas la clim.
C'est,
eh bien,
c'est les températures qu'on avait l'habitude de voir quand on regarde les cartes météo mondiales. Plutôt du côté du Moyen-Orient, du Proche-Orient ou de l'Afrique.
Quoi. Eh ben c'est extrêmement simple, Alain. Je vais vous donner un chiffre. Aujourd'hui, dans le monde, il n'y a que 2% des zones de la planète qui sont plus chaudes que la France. C'est-à-dire que la France présente des températures plus chaudes que 98% du reste de la planète. Les seuls endroits qui sont plus chauds aujourd'hui, c'est l'Arabie Saoudite et certaines parties du Sahara. Toutes les autres zones sont moins chaudes que chez nous.
Et on a une perspective de sortie, là, ou pas, de cette canicule aussi intense ?
Enfin, oui, nous pouvons effectivement vous dire à peu près, évidemment, quand va se terminer cette canicule. Alors, ça va se terminer par phase. Tout d'abord, ça va être les habitants du nord-ouest du pays, les plus chanceux, qui vont sortir dès vendredi de cette vague de très forte chaleur. C'est-à-dire la Normandie, la Bretagne et les côtes de la Manche, grâce à un changement d'orientation du sens du vent, vont perdre une quinzaine de degrés dès vendredi. Pour le week-end, samedi, dimanche, ce seront les régions un petit peu plus centrales, dont notamment l'Île-de-France, qui donc devraient descendre d'un cran de vigilance. Il faudra tout de même attendre la semaine prochaine pour que l'Est puisse enfin respirer. En revanche, pour le pourtour méditerranéen, Alain, là, nous n'en voyons toujours pas la fin.
Voilà, ce qui est impressionnant, c'est de voir cette carte en direct. Hein. On voit la vague de chaleur telle qu'elle est là, telle qu'elle s'installe. C'est la carte Zoom Earth et on voit effectivement la France, la péninsule ibérique, un peu l'Italie aussi, qui sont vraiment plaqués sur lesquels est cette vague de chaleur intense. Mais je veux dire, on n'a pas à être finalement surpris, c'était annoncé. Vous dites, mais enfin, l'amplitude quand même nous surprend, sauf que je vous ai vu dire, ben non, vous, la députée écologiste, on n'a pas à être surpris, parce que j'imagine vous allez dire, c'est dans les rapports, c'est contenu, on connaissait cette trajectoire vers laquelle on allait, quoi, en fait, c'est ça?
Mais bien sûr, vous disiez que c'est une canicule historique, en réalité, elle appartient plutôt à l'avenir. On est en train de vivre l'été le plus frais par rapport aux prochains étés que nous allons connaître. Nous savons que le réchauffement climatique est là, il s'accélère. Nous sommes déjà à plus 1,37 degrés. La trajectoire, c'est plus 2,7 dans 25 ans, plus 4 degrés à la fin du siècle. Cette trajectoire, elle est connue, elle est anticipée. Enfin, elle est anticipée par les scientifiques, pas par les responsables politiques. Ça, je vous l'accorde et c'est bien là le problème. C'est bien là le problème.
Rajoutons tout de même, si je puis me permettre, qu'on a quand même plus de 10 ans d'avance sur les scénarios que Météo France prévoyait sur les températures. Il prévoyait ces niveaux-là pour au moins 2035-2040.
Si on avait mis en place les mesures d'atténuation qui étaient annoncées. Mais sauf que ça n'a pas été le cas, tant au niveau français qu'au niveau européen.
Tout à fait.
Pas tout à fait, Agnès Pannier-Runacher.
Le scénario à plus 4 degrés en 2100, c'est un scénario qui intègre la neutralité carbone de la France et de l'Europe dès 2050. C'est-à-dire que...
Et comment on obtient cette neutralité carbone alors ?
Cette neutralité carbone, c'est traiter le sujet à la racine, c'est-à-dire baisser notre consommation de pétrole, de gaz et de charbon. En France, on a quasiment éradiqué le charbon. On a, en revanche, une dépendance au gaz et au pétrole qui est très importante. 60% de notre consommation d'énergie, c'est du gaz et du pétrole. Mais on a des solutions, et là, je pense que c'est important de le dire. Ce n'est pas parce que la France n'a pas fait son boulot qu'on aurait de l'avance. En fait, les scénarios de Météo France sont relativement exacts. Ce qui est en train de se passer, c'est que le dérèglement climatique, c'est des phénomènes qui s'accentuent. Donc, on est dans une période de canicule, même si la moyenne de l'année sera aux alentours de 1,4-1,5 degrés. Dans 10 ans, dans 15 ans, ces phénomènes-là seront plus longs, plus répétitifs, démarreront probablement dès le mois d'avril, pourront se poursuivre tout au long du mois de septembre. Donc c'est juste.
Et toucheront des régions qui n'étaient pas touchées jusqu'à présent.
Exactement,
aussi.
C'est-à-dire qu'on voit effectivement des feux de forêt arriver en Bretagne, dans le nord de la France, c'est-à-dire des situations qui sont plutôt caractéristiques de la Méditerranée, voire effectivement du Maghreb.
Mais Alain Duhamel, on a raison de pointer du doigt les politiques en disant accusés, levez-vous avec ce qui se passe là ou pas ?
Raison, il faut comparer avec des épisodes précédents. Moi, j'ai le souvenir de périodes de canicule dans lesquelles on était complètement désemparés. Et
il y a eu la fameuse de 76.
Bah oui, par exemple. Ouais. Mais aujourd'hui, je dis pas du tout que tout se passe bien, notamment pour les gens de mon âge, si je peux me le permettre, qui sont sensibles effectivement à ce genre de situation. Mais Outre qu'on n'a pas un ministre de l'écologie en chemise Lacoste dans le midi et donnant le sentiment de se reposer, ce qui est quand même un progrès. Pour le reste...
C'était 2003.
Et c'était le ministre de la Santé, M. Mattei, qu'on avait eu en chemise.
C'était assez impressionnant quand même.
Oui, oui, bien sûr. Hein,
autant que je me rappelle. Surtout, à cette époque-là, il y avait malheureusement eu beaucoup de cas de personnes âgées, solitaires, dont pour lesquels on n'avait même pas eu le réflexe de s'intéresser à leur état de santé, d'aller les voir, et bref, laisser dans un isolement qui quelquefois, enfin pas quelquefois, beaucoup trop souvent,
à des milliers de morts,
avait été mortel.
Bien sûr, il y a eu 20 000 morts.
Alors,
avec des suites au fil des semaines et des mois.
Exactement. Et là, je ne dis pas que tout se passe bien partout, je ne dis pas que tout a été formidablement anticipé, etc. Mais on n'a pas l'impression, pour l'instant en tout cas, qu'il y ait le même phénomène.
Mais il y a ce qui relève de la responsabilité individuelle aussi, parce que quand on parle de canicule, il ne faut pas systématiquement quand même se retourner vers les pouvoirs publics en disant c'est votre faute. Il y a ce que nous aussi, on peut faire, avoir comme réflexe, s'occuper des autres, des personnes âgées. Ça, il y a ce que peut faire le politique, mais il y a aussi ce que nous, on peut faire. Comment on peut se protéger quand même aussi.
Oui, enfin, si on fait reposer sur les individus la responsabilité de leur protection, vous voyez bien qu'on va aggraver les inégalités sociales. C'est les plus précaires qui sont déjà les premières victimes des canicules parce qu'ils habitent dans des bouilloires thermiques, et les plus riches qui peuvent se payer une facture de climatisation dans l'ensemble des pièces. Donc on ne va pas faire reposer les solutions sur les pratiques individuelles. Et c'est intéressant de parler de la canicule de 2003. La canicule de 2003, elle a fait comme un électrochoc dans la société. On a mis en place la journée de solidarité. On a mis en place justement les dispositifs réflexes qui permettaient d'aller vers les personnes isolées et de vérifier si elles étaient en bonne santé, s'il fallait plutôt les accompagner. Avoir des salles rafraîchi dans les EHPAD, ça vient de ces enseignements de la canicule de 2003. Ouais. Eh bien, il faut que la canicule de 2006, elle serve d'électrochoc à celles et ceux qui, pour l'instant, n'ont pas pris les mesures d'adaptation. Mettre des volets dans les écoles pour qu'elles évitent de fermer, pour que les oraux...
Mettre des clims aussi, peut-être.
Mais peut-être, mais en tout cas, rafraîchir les écoles, peu importe, que ce soit avec le réseau de fraîcheur urbain, avec des clims ou avec la végétalisation, en tout cas, de permettre à ce que nous puissions vivre et travailler correctement, parce que là, actuellement, c'est pas le cas.
Et ça, c'est tout l'enjeu du plan national d'adaptation au changement climatique. Ce qui est important de dire, c'est que la France a fait le boulot en termes de baisse des émissions de gaz à effet de serre. C'est 4 fois plus rapide que sous le quinquennat Hollande. C'est 27% de baisse des émissions de gaz à effet de serre là, ou dans les 20 années qui ont précédé, y compris le quinquennat Hollande, c'était 17%. Mais il y a eu toute la partie adaptation. Adaptation, c'est le plan de rénovation des écoles. Alors, ça ne va pas assez vite.
Qui est très en retard. Hein. Il faut rappeler que ça aussi, c'est le millefeuille français. C'est-à-dire que le primaire, ça dépend des municipalités, les collèges, ça dépend des départements et les lycées des régions.
Ça n'empêche pas de le faire.
Bien sûr.
6 500 écoles qui ont été rénovées, il y en a 55 000. Donc, ça ne va pas assez vite de notre goût. Mais il n'était pas question de les faire dans les 3 ans, les 56 000 écoles.
Dans les 10 ans.
Non, 10 000 écoles dans les 10 ans, c'était ça le chiffre. Donc des financements massifs ont été déployés. N'oublions pas que le budget du ministère de l'écologie a doublé depuis 2017. Donc ça, c'est ce qui a été fait.
Alors,
maintenant, ce qui est inquiétant, c'est que on a un reflux de ces politiques, c'est-à-dire que les mêmes qui accusent les responsables politiques ou le gouvernement de pas agir sont ceux qui ont voulu baisser le fonds vert, je pense au Rassemblement National, sont les mêmes que ceux qui expliquent qu'il faut réintroduire l'exploitation fossile en France la semaine qui précède la canicule. Nous avons vu le Rassemblement National voter pour réouvrir l'exploitation fossile. Donc il y a beaucoup aussi...
Je vous interromps, s'il vous plaît, mais
dans ce sujet-là.
Ça aussi de la santé de nos reporters qui sont en plein soleil, en plein cagnard. Là, il y a un ressenti de 48 degrés à Bénouville, dans le Calvados, où nous retrouverons Nicolas Dumas pour BFM TV. On a autorisé le t-shirt à nos reporters. On le comprend parce que là, vraiment, je prends une expression qu'on connaît, ça plombe, Nicolas.
Ah oui, c'est même tellement bouillant que, enfin, c'est difficile à vous décrire cette sensation de chaleur que l'on peut avoir ici. Et pour que vous compreniez bien, il y a même fait jusqu'à 40,3 degrés à l'ombre à Caen. C'est le record historique jamais enregistré par Météo France dans le département du Calvados. Et on se trouve, en fait, nos corps sont mis à rude épreuve, mais aussi les infrastructures routières comme le pont qui se situe juste derrière moi avec cette forte chaleur. Le pont qui se trouve juste derrière moi, c'est le Pegasus Bridge. Il est très connu pour notamment le débarquement du D-Day. Il est entièrement en métal. Et ce métal, en fait, il se dilate sous l'effet de la chaleur. Le gestionnaire a décidé de l'interdire à la circulation par rapport à ces fortes chaleurs. Et vous voyez, il y a de nombreux automobilistes qui encore ne sont pas au courant qu'il est fermé et qu'ils tentent de passer ce pont. Tout à l'heure, on a même vu une demoiselle qui a attendu 20 minutes pour pouvoir passer ce pont jusqu'à ce qu'on lui dise que finalement, en fait, il était fermé. Je vous propose d'écouter ces habitants, ces riverains qui doivent faire un détour dans cette région au micro de Jules Bedeau.
Faut faire un grand détour, etc. Ça modifie pas mal le quotidien quand même. C'est en moyenne 15-20 minutes en plus, quoi.
C'est la première fois qu'on voit ce pont-là terminé, qui est fermé comme ça. Mais c'est vraiment pas pratique parce que nous, du coup, ça nous fait faire des détours de 20 minutes. Donc ça nous fait perdre du temps pour le travail. Donc c'est vraiment pas pratique.
Et face à cette canicule historique ici dans le Calvados, le gestionnaire a indiqué que le pont n'ouvrirait pas avant jeudi soir au minimum.
Nicolas, parce que tout à l'heure, Jules Bedeau qui assure à la caméra, a eu un début d'insolation. Ben, son, malheureusement aussi le fait d'être exposé, d'attendre longtemps. Comme ça, ça va, ça va mieux pour Jules?
Ça va beaucoup mieux. On a pu mieux. Se mettre au frais, il a récupéré, tout va bien maintenant. Beaucoup d'hydratation, c'est important.
Merci. Ce qui est aussi compliqué pour nos équipes sur place, qui sont toute la journée à assurer les reportages, les directs, et qui sont exposés. Et justement, ce début d'insolation, et là, j'ai l'ancien ministre de la Santé, François Braun, avec moi. Bon, ça, il est allé se mettre au frais. Jules, il a bu, tant mieux. Il est jeune, il est plus robuste. Il y a des populations à risque. Mais ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'on peut risquer dans les jours à venir d'avoir un afflux de personnes qui seront, comment on appelle, en décompensation, c'est ça? Vers les hôpitaux?
Oui, c'est maintenant.
Je rappelle, vous êtes urgentiste
aussi. Vont devenir compliqués dans les hôpitaux, puisqu'on sait parfaitement depuis 2003, on a fait énormément de progrès, mais on sait surtout que non seulement il y a l'intensité de la chaleur qui est importante, mais il y a la durée. Et les organismes ont une certaine résilience, et au bout de quelques jours, ça va craquer, et c'est là qu'on va avoir des difficultés. Alors, les difficultés, il faut les éviter. Les éviter, ce sont des comportements individuels. Là, vous autorisez le t-shirt. Conseillez-leur le chapeau de paille aussi. Exactement. C'est plutôt pas mal. Ouais, et puis, je voyais encore en fin de matinée.
Se mouiller la tête aussi,
oui,
régulièrement, de boire.
Ouais. Fin de matinée, des gens courir sur les quais de Seine. C'est une absurdité absolue. Je crois que là aussi, il y a des responsabilités individuelles. Pourquoi? Parce que c'est dangereux pour vous. Mais en plus, vous risquez d'aller saturer un système de soins qui est déjà en grande difficulté tous les jours, on le sait, c'est pas nouveau, et qui là s'attend à avoir des afflux de patients dans les jours qui viennent.
Mais vous savez, quand on est jeune, qu'on a 20 ans, qu'on est en pleine forme, qu'on est habitué à faire du sport, des fois c'est même une idée de se dire, je me lance un défi, j'y vais voir, je vais beaucoup transpirer. Vous déconseillez de toute façon, quel que soit l'âge, quelle que soit la forme physique de le faire.
Oui, je crois que c'est complètement irresponsable maintenant. Même s'il fait 25 degrés le matin, vous sortez d'une nuit très difficile, la journée d'avant aussi, vous risquez de vous déshydrater beaucoup plus vite, vous allez abîmer vos muscles, ce qui est jamais bon pour un sportif. Il y a des sportifs de haut niveau qui vont continuer à s'entraîner, mais probablement dans des ambiances qui sont rafraîchies, voire climatisées. Là, il n'y a vraiment pas d'urgence à aller courir quand il fait plus de 40 degrés dehors. C'est vraiment totalement stupide.
Mais on parlait de l'hôpital qui pourrait accueillir dans les semaines à venir effectivement des patients en décompensation. Il est prêt, l'hôpital? Est-ce que tous les hôpitaux ont aussi ce qu'il faut? Le personnel a des salles climatisées, a de la ventilation? On a tiré les enseignements, parce que vous avez connu la canicule de 2003 en tant que soignant. Vous êtes devenu ministre de la Santé, donc vous avez le double regard. Est-ce que c'est prêt?
Alors, prêt, on peut jamais le dire. Préparé, certainement. C'est-à-dire que le système, je vais même pas dire système de santé, parce que malheureusement, on n'a pas un système de santé, on a un système de soins. Et le système de soins est préparé. De plus en plus d'établissements sont entièrement climatisés pour les hôpitaux les plus récents.
Les patients ne crèvent pas de chaud dans les hôpitaux, et c'est un mauvais jeu
dépend.
De mots.
Ça dépend.
Oui, parce que je sais que vous avez pu l'expérimenter, malheureusement.
C'est pas toujours climatisé, y compris dans des hôpitaux célèbres.
Exactement. Et des hôpitaux récents, des hôpitaux, par exemple, à Paris et autour de Paris, de nombreux hôpitaux ne sont pas climatisés. Ils sont juste rafraîchis, ce qui fait descendre 2 degrés, c'est ridicule.
Donc
il y a besoin
de rénover, d'installer.
De rénover, d'investir dans les hôpitaux, c'est pas nouveau.
Je vous pose la question, monsieur Braun, pardon, vous avez dû voir la polémique à Nantes, le nouveau CHU de Nantes, qui doit être construit 230 000 m², qui prévoit des systèmes de climatisation et de rafraîchissement intégrés, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Selon la climatisation, elle sera installée que dans la moitié du bâtiment. Donc, si vous voulez, au regard de l'investissement total, la somme qui est mise, il y a des syndicats de soignants qui disent, mais enfin, c'est une aberration. Alors, la climatisation, elle doit être pour tout le monde.
La priorité, moi, je suis dans un hôpital qui est récent, elle est bien évidemment dans les endroits où il y a des patients et où il y a des soignants qui sont là toute la journée. Les bureaux administratifs, objectivement, s'ils sont juste rafraîchis, c'est suffisant.
Puisqu'on parle des hôpitaux, on va aller à Beauvais. Nous sommes dans l'Oise, retrouver Naouf El Kaouafi en direct pour BFM TV. Parce que justement, parlons de l'hôpital de Beauvais qui se retrouve sous tension, Naouf El.
Oui, parce que le Beauvais, eh bien, a la vigilance rouge depuis quelques instants. C'est l'ensemble des Hauts-de-France, eh bien, qui a cette vigilance rouge, pas seulement liée aux différentes températures, mais également aux remontées qui sont faites du terrain avec, eh bien, les conséquences sanitaires. C'est le cas, par exemple, dans les hôpitaux de la région, plus précisément ici à Beauvais, dans cet hôpital. C'est ce que m'ont confirmé tout à l'heure un soignant. Il m'expliquait que la situation était plus que tendue. Comprenez qu'à l'intérieur, il n'y a pas de clim. Seulement quelques ventilos, mais pas assez pour pouvoir, eh bien, en donner à tout le monde. Situation extrêmement tendue, notamment dans certaines chambres où les températures peuvent grimper jusqu'à plus de 35 degrés. Il faut donc prioriser, s'occuper en priorité, notamment à des personnes les plus vulnérables. Et en plus de cela, il faut accueillir les nouveaux patients, notamment victimes de ces différentes vagues de chaleur. On a aperçu tout à l'heure une retraitée qui était venue, notamment à cause de forte déshydratation à la suite de cette canicule. Et pour cela, il a fallu reprogrammer plusieurs opérations qui n'étaient pas urgentes. Situation, vous l'aurez donc compris, extrêmement tendue ici dans la région et ça risque de se poursuivre ces prochaines heures, ces prochains jours, avec donc cette vigilance rouge étendue ici dans l'ensemble de la région des Hauts-de-France.
Kaouafi en direct de Beauvais avec Nils Müller pour BFM TV. Enfin, on imagine les familles, on imagine les patients, Alain, qui se retrouvent dans des chambres d'hôpital par plus de 35 degrés. Enfin, c'est pas possible, c'est pas tenable.
Ben, c'est pas très humain, non, il faut reconnaître ce qui est.
Est-ce qu'on doit avoir un droit à la climatisation et lancer un plan climatisation en France?
Un droit à la fraîcheur.
Ou la fraîcheur, si vous pouvez.
On peut en faire un objectif, en tout cas, et même une priorité, c'est pas interdit.
Mais ça, c'est du ressort du pouvoir public.
Ah, bien sûr.
Et ça, c'est dans le plan national d'adaptation au changement climatique. Enfin, je reviens deux minutes dessus. Le sujet n'est pas la technologie qui vous permet de baisser la température.
Pourquoi ça prend autant de temps depuis 2003?
Alors, 2003, je ne sais pas vous dire. Moi, je peux vous parler de ce que je connais. C'est-à-dire quand on a lancé ce plan en 2022 et qu'il a été salué, hein, je rappelle, ce plan national d'adaptation au changement climatique par toutes les associations environnementales qui étaient au Conseil national de la transition écologique, toutes les associations de salariés sauf la CGT, tous les représentants des fédérations d'entreprises, toutes les associations d'élus locaux. Donc c'est pas quelque chose qui sort de nulle part. C'est plus de 200 actions.
Que tout le monde se renvoie, la balle, madame Tamir Runacher. C'est-à-dire qu'on se tourne vers les collectivités locales. On se tourne vers les mairies, on se tourne vers les régions.
C'est très concret. C'est 200 actions.
Et puis on oubliera tout. Vous allez voir en septembre, ce sera la campagne électorale.
Moi, je suis d'accord avec
vous. Tout sera mis sur pause. On sera sur la présidentielle.
Je suis d'accord avec vous. Il ne faut pas tout oublier. Et c'est pour ça qu'on a doublé les financements. Enfin, à un moment, faut quand même parler. Les vrais, on a doublé les financements, on a fait un plan de rénovation des écoles, on a mis en place un plan de climatisation dans les transports publics. Maintenant, ceux qui nous disent que d'un coup de baguette magique, ils transforment toutes les écoles d'un coup en 5 ans, ce sont des menteurs. Nous sommes dans une transformation extrêmement profonde. La France est considérée par rapport à ça comme plutôt en avance sur l'adaptation au changement climatique.
Nous sommes de très loin.
Mais on part de très loin, toute la planète.
Heureusement qu'on a le nucléaire, d'ailleurs. Pour ça, c'est un atout.
Et le renouvelable. Comment vous pensez qu'on va climatiser l'été avec du photovoltaïque? Parce que le nucléaire est un petit peu en tension en ce moment.
Du mix énergétique aussi.
Exactement. Il faut les deux. C'est-à-dire qu'à la fin, l'idéologie qui dit on fait pas de climatisation, on fait 100% de climatisation, c'est pas le sujet. Il faut qu'il fasse frais. Il faut construire bien. Effectivement, à certains endroits, il faut de la climatisation.
Droit
à la fraîcheur, notamment dans les logements. Quand on a eu un stop and go sur ma prime rénov financée
liée à votre motion de censure, la députée, rappelle.
Liée à l'inaction du gouvernement.
Liée à l'arrêt des financements pendant la motion de censure.
Qui n'a
3 mois perdus, 4 mois.
Et et des financements qui n'étaient pas à la hauteur des besoins, et ça, tout le monde en convenait, vous également, et des financements qui ont été arrêtés avec un dispositif qui n'a pas été porté politiquement au moment où il était le plus fragile, au moment où nous avions besoin de visibilité, tant pour les entrepreneurs qui font de la rénovation thermique que pour les personnes qui ont recours à ces dispositifs. Mais le droit à la fraîcheur, c'est dans les logements, parce qu'on peut parler de la climatisation dans les hôpitaux, les bureaux.
C'est dans les écoles, c'est dans les bâtiments publics, c'est partout.
C'est dans les transports.
Lignes de métro seulement à Paris qui sont climatisées.
Et là où je vous rejoins, le droit à la fraîcheur, c'est pas que par la climatisation. C'est pas, par exemple, si on climatise toutes les écoles et que les mairies qui actuellement n'arrivent pas à payer la facture de chauffage des piscines l'hiver, comment est-ce qu'elles vont payer la facture des climatiseurs l'été? Parce que c'est ça la situation financière des collectivités territoriales. Les hôpitaux, si on climatise l'ensemble des salles, ils vont se retrouver à comment? Ils vont être tiraillés entre des besoins de payer des factures. Mais c'est la réalité. On n'arrive plus à payer les factures, que ce soit pour les ménages, les collectivités territoriales, parce que l'énergie est trop chère, parce que nous sommes dépendants aussi de l'énergie fossile.
La colère des familles, des patients ou les gens qui meurent, ça n'a pas de prix au regard de l'investissement.
Mais bien sûr, et l'investissement, ça doit être un droit à la fraîcheur en regardant de manière intelligente
en fait, les familles, elles se fichent de savoir si c'est climatisé ou pas. Elles veulent qu'il fasse frais dans la chambre.
Dans une chambre, c'est notre responsabilité. La meilleure césarienne, il ne fait pas plus de X degrés pour que la patiente, elle ne se retrouve pas malade.
Et le personnel soignant qui sera plus efficace au travail, M. Brand.
Je suis un petit peu inquiet de voir les réactions qu'il y a par rapport à cette épisode de canicule concernant l'hôpital, par exemple. On dit qu'il va falloir rajouter des climatiseurs à droite, à gauche, etc.
Non. Ou de la ventilation, peu importe.
Mais je pense qu'il faut qu'on sorte de cette logique. On a un système de santé qui n'est pas un système de santé en France. On a un système de soins. Tout est concentré sur le soin. Donc déjà, revenons un petit peu sur de la prévention. Ce sera bien, effectivement, en organisant pour que ce soit plus frais. Et puis les hôpitaux, il faut accepter une réforme structurelle en profondeur de notre système de santé. Déjà, c'est pas tout l'hôpital. Il faut travailler aussi avec la ville. L'intérêt d'avoir lancé le déclenchement de ce fameux plan hors sang climatique dont on parle, c'est aussi pour faire travailler avec la ville. Peut-être qu'il faut réfléchir aussi, et il faut le faire, sur n'a-t-on pas trop d'hôpitaux? Quelle est la place des hôpitaux de proximité par rapport à d'autres? Est-ce qu'il vaut mieux faire des travaux pharaoniques dans des bâtiments anciens, ou est-ce qu'il vaut mieux restructurer notre offre hospitalière différemment?
En faisant de la proximité des dispensaires?
Je pense que c'est ça les vraies questions. C'est-à-dire que nous devons réformer structurellement notre système de santé aujourd'hui. Alors certes, ça va pas se faire en 5 minutes. Les Anglais prévoient 10 ans. Nous, on va essayer peut-être sur 5 ans. Ce serait une bonne idée.
C'est pas comme si on avait un commissaire au plan pendant un temps. La planification, ça sert à ça, normalement. Il y a eu un commissaire au plan qui est devenu Premier ministre. Il a pas été très efficient en tant que commissaire au plan.
Alors allons vers ce que tous les professionnels de santé demandent, qu'ils soient libéraux ou pas, une loi de planification et de programmation en santé. Plutôt que tous les ans revenir sur cette loi de financement de la sécurité sociale et défaire ce qu'on a fait l'année d'avant.
Mais Alain, je me retourne vers vous parce que quand on a des vagues de froid maintenant assez inédites en France, on voit une désorganisation partielle au niveau des transports, au niveau des écoles. Quand arrive une grosse vague de chaleur, on continue de voir une désorganisation partielle au niveau des transports, au niveau des écoles. Quand même à se demander où est la 7e ou 6e puissance mondiale, où est la France, et est-ce qu'on est la risée du monde? Est-ce que nos politiques sont nulles? Enfin, je sais.
Je ne suis pas sûr, mais ça n'est pas une explication de toute façon, et ça n'est pas une consolation non plus. Je ne suis pas sûr que ça marche mieux en Grande-Bretagne ou en Allemagne. Mais ce n'est pas la question. La question, c'est, est-ce que on a d'une certaine manière planifié ou pas une amélioration, et deux, est-ce qu'on a le financement pour ça? Bon, alors pour planifier, moi je fais tout à fait confiance au système bureaucratique français, il adore planifier. Pour financer, je fais beaucoup moins confiance à ceux qui en ont la responsabilité. Et évidemment, là, il ne s'agit pas du tout de petits financements.
Oui.
Je veux dire,
des dizaines de milliards.
Oui, ce sont des dizaines de milliards, absolument.
Mais vous dites, je fais tout à fait confiance à l'administration française. On doit vraiment faire confiance à l'administration française pour planifier sur le papier, mais pour agir ensuite.
Planifier, c'est déjà une preuve d'intelligence. Agir, c'est une question aussi, non pas seulement de volonté des exécutants, mais de financement.
Mais est-ce que c'est parce que c'est trop centralisé? C'est-à-dire qu'il faudrait davantage décentraliser.
Là-dessus, on dit tout et le contraire, puisqu'il y a une grande bagarre. Moi, je connais un petit peu ça par famille. Il y a une grande bagarre sur les pouvoirs régionaux. Est-ce qu'ils sont excessifs? Est-ce qu'au contraire, ils sont insuffisants, etc.
Reconnaissez quand même que dans notre pays, où l'instruction, l'éducation est obligatoire, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. C'est quand même une faillite de dire aujourd'hui dans 1800 écoles. Alors certes, il y a 60 000 établissements scolaires, ça peut paraître dérisoire, mais de dire on ferme parce qu'on n'est pas capable d'accueillir les enfants, parce qu'on n'est pas capable de les mettre dans des salles de classe, c'est quand même aussi désespérant d'entendre une présidente de région dire bah désolé, ne prenez pas les transports, vous risquez des malaises, ou de dire ne prenez pas le train parce qu'on a une dilatation des voies et il y a des trains qui peuvent rester en race campagne. Ça désorganise le pays, ça désorganise des familles, et ça a un coût aussi pour la croissance et pour dans un pays où on en manque en plus de la croissance.
C'est aussi un mode d'organisation. Moi, j'étais il y a 20 ans en Allemagne au lycée et en fait, on avait ce qu'on appelait le Hitzefrei, c'est-à-dire que quand il faisait plus de 25 degrés à côté de Dresde, en Saxe, eh bien, on partait, on n'avait pas cours l'après-midi, on avait des activités en plein air, etc. Et c'est une forme de continuité pédagogique qui se fait dans d'autres espaces. L'école dehors, c'est possible quand on a végétalisé la cour de l'école. Et donc, c'est aussi une autre manière d'organiser notre société face à de nouveaux risques. Vous parliez de grandeur de la France. La grandeur de la France, ça a été de socialiser ces risques, de faire en sorte que les maladies professionnelles soient couvertes. Et bien là, nous avons un nouveau risque, c'est celui du climat, et nous pouvons avoir, c'est la proposition des écologistes, le congé climatique, mais aussi d'autres manières de...
Mais non,
de
le congé climatique, c'est pas de s'arrêter de travailler s'il fait chaud, c'est pas possible.
Mais c'est pas ça... Bah, attendez, vous caricaturez pas la proposition, c'est de dire que s'il y a un feu de forêt, une inondation, ou bien que vous avez...
Je crois que ça existe déjà, en fait. Ça s'appelle le décret du 27 mai 2025
Sur certaines professions uniquement,
sans
seuil de température. Et par exemple, si vous avez pas la possibilité, si vous n'avez pas la possibilité de vous rendre à votre emploi, eh bien parce que vous avez eu par exemple un train qui ne circule pas, etc. Vous devez soit prendre des jours de congé sur votre quota de loisirs.
C'est pas tout à fait exact ce que vous dites.
Et on parlait d'inspiration des autres pays européens. L'Espagne l'a fait. On est en train de connaître les températures
espagnoles. L'Espagne a fait quelque chose de très particulier qui était au moment des inondations de Valence de considérer que effectivement, compte tenu de la désorganisation, et on n'a pas eu d'épisode équivalent, et je touche du bois pour qu'on ne l'ait pas.
Mais dans les Hauts-de-France, on a eu des épisodes d'inondation.
Rien à voir. J'y habite dans les Hauts-de-France, madame la députée. C'était des épisodes qui n'étaient pas comme des orages cévenols ou des orages méditerranéens. Avec cette violence, c'est des épisodes continus, et justement,
Exactement.
Où les gens
alors,
sont
désorganisés.
Oui, je voulais ajouter, alors ça fait peut-être un peu vieux jeu, mais moi, je fais appel à du bon sens.
C'est la responsabilité individuelle.
Dans la santé, il n'y a pas les mêmes problèmes de santé dans le quart nord-est de la France que dans le quart sud-ouest. Donc oui, il faudra avoir une politique territorialisée de la santé. On voit bien que sur les températures...
Comme en Allemagne,
c'est un petit peu le même problème.
Et c'est
après, on parle des écoles. Moi aussi, j'ai trouvé ça aberrant, ces fermetures d'écoles, mais... On a des endroits qui sont climatisés dans notre population, pas partout, mais par exemple les centres commerciaux. C'est climatisé. Allez dans les centres commerciaux.
Pour aller acheter.
J'attends une mairie d'une grande ville.
Pour aller acheter un climatiseur, on va dans un endroit mais climatisé. Pour aller apprendre, on n'est pas dans un endroit climatisé.
Quand un maire d'une grande ville très urbanisée où il fait très chaud va dire, bah écoutez, cet après-midi, vous allez emmener 300 gamins d'une école au cinéma. Les cinémas sont climatisés. Payez-leur un film. Enfin, il faut de temps en temps essayer de réfléchir un petit peu sur ce qu'on a et ce qu'on a sur la table.
Ils peuvent aller voir le De Gaulle, ça fait un moment en plus historique où ils peuvent apprendre l'histoire. Mais clim, pas clim, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un concours de propositions. Jean-Luc Mélenchon, le Rassemblement National dit voilà, il faut faire un grand plan climatisation du côté de la France Insoumise, donc surtout pas, il y a des alternatives. Donc on a l'impression qu'on est une espèce de bataille
Il faut rafraîchir.
C'est brasse de l'air.
Est-ce qu'on rafraîchit avec la climatisation ou avec autre chose? Est-ce qu'on végétalise des toits? Est-ce qu'on met plus d'espace vert? Il faut faire un petit peu de
dans les cours, on a enlevé les arbres dans les cours d'école à la demande des parents ou d'associations parce qu'il y avait des incidents ou des accidents.
Voilà, les gamins se tapaient contre les arbres.
Bon. Oui, ça
après
peut arriver,
la climatisation pour revenir aux hôpitaux, c'est pas la climatisation que vous allez mettre chez vous. Il faut avoir conscience qu'il faut des filtres particuliers pour éviter la dissémination de microbes. Donc c'est tout à fait autre chose aussi. C'est pas aussi simple que de venir mettre un climatiseur chez soi.
Ça vous paraît dérisoire ce débat sur clim, pas clim, entre droite et gauche, Alain Duhamel?
Alors, entre droite et gauche, oui, mais clim ou pas clim, non. Clim ou pas clim, c'est un sujet, oui. Effectivement, c'est un sujet, c'est un coût, c'est une capacité d'installation, c'est aussi un peu un autre mode de vie. Ce sont des sujets tout à fait sérieux. Alors, en faire une querelle gauche-droite, ça c'est assez artificiel.
C'est le Japon qui est le pays du monde
où
il y a le taux de climatisation le plus important, 90%. Ouais. On est à 28% aujourd'hui en France.
Mais ça n'est pas le pays le plus confortable non plus.
C'est pas faux. Et puis il y a un petit débat qui peut arriver aussi, puisque vous êtes tous des responsables politiques et vous connaissez le Palais Bourbon, c'est de savoir si on doit garder la cravate, la chemise ou pas au Palais Bourbon. On va retrouver justement Milan Argelas qui est à l'Assemblée nationale. On a autorisé un tout petit peu Milan Argelas, il est bien cravaté, costumé, chemisé, mais on a autorisé un petit peu de détente aux élus de la République.
Oui Alain, puisque je peux vous le dire, s'il y a bien un accessoire qu'il est difficile de trouver aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est la cravate. Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, autorise les députés à siéger sans veste ni cravate face à la canicule. Justement, je peux vous le dire, pour avoir passé la journée ici, aussi bien en salle des quatre colonnes qu'en salle des pas perdus, mais aussi donc dans l'hémicycle, on voit des députés donc en chemise, sans veste ni cravate. Certains même sont en polo, un style forcément bien plus décontracté que d'habitude, qui tranche avec le costume qui est d'usage ici à l'Assemblée nationale en règle générale sur les autres périodes de l'année. Justement, nous sommes allés demander aux députés ce qu'ils en pensent et vous allez le voir, certains ont très chaud. Écoutez-les.
On se voit dans l'état dans lequel on est dans l'enceinte de l'Assemblée, ne pas pouvoir porter de cravate, oui, ça va dans la bonne direction, et pas avoir de forcément la veste de rigueur, ça va dans la bonne direction également.
On devrait adopter ça tout le temps. Je trouve parfois que cet hémicycle est un peu trop climatisé. Donc voilà, c'est une bonne décision.
Moi, je suis pour polo short dans l'hémicycle. Alors évidemment, il y a des très beaux shorts en lin très classe, ou la jupe à la fidjienne, c'est ce qu'on a trouvé de mieux pour faire circuler l'air.
Concernant la climatisation, je peux vous le confirmer, l'hémicycle est bien climatisé. En revanche, la salle des quatre colonnes, comme celle des pas perdus, ne le sont pas. Et ça, je peux vous le confirmer, il fait assez chaud, près de 30 degrés ici, salle des pas perdus.